Clara Luciani ou Luciani, vous prononcez comme vous voulez, elle chantait donc « Tout le monde sauf toi ».
CQFD a 10 ans.
Bon anniversaire CQFD.
Moi aussi, j'ai 10 ans.
Ouais. Alors je sais pas si c'est une bonne chance d'avoir, c'est une chance d'avoir 10 ans ou pas. Oui, c'est pas mal d'avoir 10 ans, je pense. Ouais, on est encore curieux et on a envie de tout découvrir.
Mais ça du peu... Souchon là, je vois.
Oui, j'ai 10 ans. Oui,
je. J'ai 10 ans. Vous étiez Alain Souchon de manière non radiophonique puisque vous faisiez des mimes, Sarah Dirène.
Oui.
10 ans donc, il s'en passe effectivement des choses en 10 ans. C'est particulièrement vrai avec la thématique qui va nous intéresser à présent, l'intelligence artificielle, Stéphane Delétro.
Ouais, ça s'est même emballé ces 3-4 derniers mois pour tout un chacun. L'intelligence artificielle a désormais un nom, et ce nom, c'est...
Sarah Dirène ?
ChatGPT. Alors, je dis GPT, et vous, évidemment, GPT, mais GPT. Je trouve rigolo.
Oui, j'imagine pourquoi. Ça vous fait rigoler. Vous avez un peu encore 10 ans dans votre tête. Et
tout
ça,
à fait.
Pour ça qu'on vous aime encore.
Voilà, pas un jour sans que ChatGPT ne fasse l'objet de conversations, articles, émissions. Alors, est-elle vraiment révolutionnaire, disruptive ? Nous verrons ce qu'en pensent nos deux invités. Et comme l'intelligence artificielle ne se résume pas à ChatGPT, nous verrons notamment comment on crée une intelligence artificielle, comment on l'entraîne, quels sont les risques de dérive et si nous, humains, serons bientôt obsolètes.
Alors, deux invités pour répondre à toutes ces questions. Tout d'abord, alors je me suis amusé, j'ai mis un ChatGPT. Qui est François Fleuret ? François Fleuret est un chercheur en informatique suisse. Il est professeur associé à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne en Suisse depuis 2017 où il dirige le laboratoire de vision par ordinateur Computer Vision Laboratory. C'est juste jusqu'à présent ? Ça commence très mal. C'est vrai?
Non. Donc, là, c'est intéressant parce qu'on voit exactement le... Non, c'est faux. C'est-à-dire que je suis pas prof associé à l'EPFL, je suis prof titulaire à l'EPFL, je suis full prof à Genève. Et le département de, le labo de Computer Vision est...
Voilà.
Et dirigé par Pascal Fuhr.
D'accord, très bien. Qui n'écoute pas, on l'espère aujourd'hui, sinon il est très vexé, c'est ça. Il faut un peu corriger, on corrigera, il faudra corriger un petit peu. Vous étiez auto-testé sur ChatGPT?
Oui, exactement, parce que c'est intéressant. Ça permet de voir à quel point on apparaît dans les données d'apprentissage. Et visiblement, j'apparais pas tellement.
Bon, il faut le corriger.
Alors ça, c'est pas encore prévu. Faudrait discuter avec OpenAI. Sur...
Voilà, donc ça c'est vous, François Fleuret, vous êtes le vrai, vous êtes d'accord, vous confirmez dans la vraie vie avec toute votre intelligence naturelle, j'allais dire. Et à vos côtés, les Nguyen Wang, bonjour à vous.
Bonjour.
Alors là, je lis pas ce qui est, je lis ce que Stéphane Delétro a préparé. Je pense que ce sera plus juste et je peux vraiment lui faire confiance. Co-fondateur et PDG de Calicarpa, c'est une start-up en cybersécurité du machine learning, c'est juste?
Oui.
Yes, bravo Stéphane. ChatGPT, je suis fier de vous. On va revenir effectivement plus longuement sur cette intelligence artificielle dans quelques minutes. Mais juste une question, les spécialistes que vous êtes sont-ils impressionnés? Je pense qu'on va entendre forcément un petit nom parler les performances de cette intelligence artificielle, François Fleuret.
Alors moi je suis impressionné.
Ah ouais, quand même.
Que les technologies en question, simplement parce que c'est plus gros face les performances qu'on voit en ce moment, ça reste, je continue à me gratter la tête, je suis un peu surpris, je veux dire.
D'accord. Et vous, les Nguyen Wang?
Je pense que c'est tout à fait impressionnant. Ouais. Ce qu'il faut voir, c'est ça s'inscrit dans une progression qui est vraiment de plus en plus spectaculaire et qui a été initiée depuis plusieurs années déjà, voire plusieurs décennies, mais... on a un résultat aujourd'hui qui est assez bluffant.
Mais on continue de parler d'intelligence artificielle. Or, c'est une machine. Enfin, je veux dire, elle n'est pas intelligente comme un humain l'est, non? Donc, pourquoi est-ce qu'on continue d'utiliser ce terme?
Je pense que c'est quelque chose de très spectaculaire, qu'on imaginait difficilement réaliser, même il y a peut-être quelques années, quoi. Donc, rien que le côté spectaculaire, cette capacité à imiter le langage à ce niveau-là, c'est quelque chose qui est bluffant. Et on se rend compte aussi que ça résout aussi d'autres tâches quand on peut poser des problèmes à ce genre d'algorithme et qui résolverait, et l'algorithme résout ces problèmes. Parfois mieux que ce que des étudiants ou voire des humains pourraient.
Mmh. Voir des profs, vous allez dire.
Alors pour que l'on comprenne bien ce qu'est et comment fonctionne une intelligence artificielle, je vous propose un exemple issu du monde de la santé, le repérage de tumeurs cancéreuses sur des images issues d'un scanner des poumons. La première étape, je vous laisse à choix ceux qui ont envie de répondre là. La première étape, c'est écrire un programme, un algorithme.
Alors, tous ces modèles dont on parle, qui font le buzz, qui remontent aux années 80-90, donc les réseaux de neurones artificiels, reposent tous à peu près sur le même principe, qui est, on écrit un programme qui finalement n'est pas très compliqué, c'est-à-dire que même un truc comme ChatGPT, le programme, un étudiant de master un peu compétent, le comprendrait sans problème, Mais ce programme intègre un grand nombre de paramètres qui ne sont pas spécifiés. Et ensuite, on utilise des grandes quantités de données pour trouver les valeurs de ces paramètres. Et la chose qui est surprenante, c'est que, bien que le programme soit pas compliqué, ce grand nombre de paramètres fait qu'il est capable de développer lui-même des règles extrêmement complexes, extrêmement compliquées à suivre. Donc, ce qu'il faut, c'est, dans le cas de vos tumeurs cancéreuses, il faudrait un grand nombre d'images de radio, avec ce qu'on appelle le ground truth, la vérité terrain donnée par des oncologues. Et après, on dirait au réseau de neurones, bah ça c'est un cancer, ça c'est pas un cancer, ça c'est pas un cancer, ça c'est un cancer. Et lui-même développerait les règles qui lui permettent de faire...
Voilà, c'est ça. Donc on va lui montrer des photos de tumeurs en lui disant ça c'est le cancer. Et puis on lui indique s'il se trompe ou il se trompe pas.
Exactement.
Et il est capable ensuite de continuer, dans le fond, d'apprendre par lui-même.
C'est ça, il va développer des règles qui, si ça se passe bien, seront valides sur des images qu'il a jamais vues pendant sa période d'apprentissage.
Peut-être une question à vous, Len Nguyen Wang. On voit à travers cet exemple qu'il y a deux points capitaux, une masse de données très importante et des statistiques. C'est, on peut dire que c'est valable quasiment pour toutes les intelligences artificielles.
Alors ça dépend ce qu'on entend par intelligence artificielle. Il y a beaucoup de débats autour de cette terminologie, mais c'est une réflexion qui vient de d'Alan Turing en 1950, qui s'était posé un peu la question comment est-ce qu'on peut faire des machines qui sont capables de résoudre ce qu'on appelle le test de Turing, c'est-à-dire parler de façon indiscernable d'un humain. Et la réflexion qu'avait Alan Turing, c'est que le nombre de lignes de code qu'il faudrait écrire pour un tel algorithme est énorme. Donc lui, il estimait à au moins des milliards de lignes de code. Or, pour un humain, c'est très difficile d'écrire des milliards de lignes de code juste pour une question de temps, parce que ça prend beaucoup de temps, même pour des équipes d'humains. Et ensuite, quand on sait avoir des bugs, on écrit à plusieurs, ça commence à être très compliqué. Et donc, ce que disait Alan Turing, c'est que plutôt que de réécrire soi-même entièrement le programme, une idée qui serait beaucoup plus prometteuse, et donc il avait déjà inventé le machine learning d'une certaine manière en 1950, ça serait de concevoir un algorithme qui apprend à partir d'énormes quantités de données et qui écrirait d'une certaine manière lui-même son propre code. Et donc, pour des tâches complexes comme le langage, il semble que ça soit la seule voie possible pour avoir de tels algorithmes.
Donc, si on en revient à ChatGPT, ce que l'on a évoqué tout à l'heure, donc la notion de statistique, elle est vraiment fondamentale.
Ah oui, là, pour ChatGPT, enfin pour toute la lignée des modèles de langage, c'est purement statistique. C'est-à-dire, en fait, ce qui est d'autant plus surprenant, c'est qu'il y a eu tout un développement depuis 2010-2012 d'algorithmes pour de la vision, pour du son, pour des vidéos, pour des choses comme ça. Et pour le langage, c'est presque la version la plus simple. C'est simplement, il apprend à prédire le prochain mot. Donc, ces programmes prennent un bout de texte et tout ce qu'ils font, c'est calculer la probabilité, la distribution de probabilité du prochain mot. C'est-à-dire, quels sont les mots probables qui viennent et qui suivent. Donc c'est vraiment des stats.
Mmh. Avec quand même le constat que ces connaissances s'arrêtent en 2021, c'est ça? Donc par exemple, la guerre en Ukraine n'existe pas pour ChatGPT.
Alors là, c'est un peu compliqué parce que OpenAI, qui contrairement à ce que son nom l'indique, est plutôt closed. c'est pas très clair, mais c'est vrai qu'à un moment, ils annonçaient que ça avait été entraîné sur des corpus jusqu'à 2021. Donc effectivement, il était complètement ignare de tout ce qui suit 2021. Mmh.
Ça, c'était pour la première version, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.
À nouveau, là, à moins qu'il y ait des insiders, mais okay. On ne sait pas trop, parce que c'est très fermé. Ils assument à fond d'être fermés en ce moment.
Donc, vous l'avez testé, on l'a vu, hein. ChatGPT fait beaucoup d'erreurs. De votre côté, vous en avez repéré aussi quelques-unes?
Moi, personnellement, j'ai pas énormément interagi avec ChatGPT, mais bien sûr, il y a beaucoup de cas où ChatGPT dit des choses problématiques, soit des erreurs, soit des biais assez dangereux, potentiellement sexistes ou autres. Et oui, il y en a beaucoup qui ont été révélés.
Sarah Diren.
Oui, mais vous parliez de statistiques, c'est-à-dire que si je dis à ChatGPT, une vache verte sur Mars.
Alors là, il va continuer. C'est-à-dire que la chose qu'il faut comprendre. Mais après, tout ça est compliqué parce que depuis que c'est devenu le phénomène que c'est, il y a des enjeux économiques et c'est devenu un business. Donc, je pense qu'ils sont extrêmement prudents. Ils ont commencé à corriger. Il y a eu un peu un côté les pompiers qui arrivent parce que ça devenait un vrai problème. Mais à la base. Le fait que ChatGPT ou GPT-3, qui était le truc antérieur, dise la vérité, était purement un effet secondaire du fait qu'il essaye d'imiter le langage. Donc, si vous lui dites les vaches vertes sur Mars, Lui, je pense qu'immédiatement, il se dit, enfin, ça évoque les statistiques de romans de science-fiction et de fantastique de son corpus, et il va juste continuer avec cette idée. C'est-à-dire, il va pas vous dire, allez, mais les vaches vertes n'existent pas. Parce que peut-être que vous, quand vous dites ça, vous êtes en train d'écrire une nouvelle de science-fiction. Et voilà, il continue avec la statistique de ce genre de choses.
Il peut aussi dire, donneront du lait vert.
Très probablement, oui, je pense, oui.
Mmh. Bon. Alors, Stéphane?
Oui, les grands groupes comme Google ou Meta investissent des milliards dans ce secteur. Vous pensez que ça permettrait à ce genre d'intelligence artificielle de faire de moins en moins d'erreurs?
Alors, je pense qu'on peut rentrer un peu plus sur comment fonctionne Silhouette, mais il y a un peu deux aspects. Le premier, c'est d'imiter le langage, notamment le langage qui est trouvé sur les données les plus accessibles, qui sont souvent des données du web. Ça peut être Wikipédia, mais en fait, une grosse partie, c'est même les réseaux sociaux. Et bien sûr, ça pose toutes sortes de problèmes, parce que répliquer ce qui se passe sur les réseaux sociaux n'est pas forcément toujours quelque chose de désirable. Et du coup, il y a une deuxième partie qui est ce qu'on appelle parfois du fine-tuning. Donc, voilà, on peut voir ça comme une sorte d'éducation encadrée, où on va dire à ChatGPT ou à ses différents algorithmes, voilà, ce genre de langage est plutôt bien répliqué, il faut que tu répliques ce genre de choses, et cette autre forme de phrase est quelque chose qui est pas bien, qu'il faut pas dire, donc typiquement des choses qui seraient toxiques, des langages misogynes ou autres. Donc cette phase de fine-tuning peut être aussi utilisée pour diminuer les réplications de contenu, par exemple, erroné. Mais c'est un énorme travail que de corriger. Faut être derrière l'algorithme à chaque fois et lui dire « Ah, ça, c'était pas bien, ça, c'était bien. » Et c'est compliqué.
Donc pour l'instant, on rigole avec, on s'en amuse un peu, c'est un joujou. Mais un jour, si tout va bien, ça sera un vrai outil utile. Voilà.
Ça va être utile. Un autre aspect sur lequel j'aimerais attirer l'attention, c'est que dans cette période de fine-tuning, il y a aussi des risques qui est que le fait que l'entreprise elle-même peut incorporer ses propres biais dans l'algorithme. Par exemple, on sait qu'OpenAI a établi un partenariat récemment avec Coca-Cola. Et donc, ça soulève d'autres questions sur des questions comme, par exemple, sur les Ouïghours, par exemple. Ça a été montré que ce genre d'algorithme va éviter le sujet. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut qu'il fasse? Enfin, c'est des vraies questions d'éthique qu'il faut se poser.
Ouais, on va y revenir en deuxième partie. Juste peut-être une petite question avant d'un petit peu de musique. Comme enseignant, vous, est-ce que ChatGPT vous fait peur?
À vrai dire non, parce que j'ai déjà avant ChatGPT, je trouvais souvent injuste de noter des devoirs faits à la maison, parce que il y a des étudiants qui ont du support à la maison par la famille ou autre et d'autres pas. Donc pour moi, ça a pas tellement changé. Je dirais juste que ce qui m'inquiète, ce serait que certaines personnes surestiment la validité de ce que dit ChatGPT. C'est plutôt il faut vraiment pas que des parents se disent ah mais voilà, mon gamin de 12 ans maintenant c'est bien, il a ChatGPT, il peut faire ses devoirs de chimie tout seul, parce que ChatGPT risque, s'il lui dit les vaches vertes, le devoir de biologie va être un peu curieux.
Y a-t-il des vaches vertes sur Mars? Je viens de poser la question à ChatGPT. À ma connaissance, il n'y a pas de vaches vertes sur Mars ou dans tout autre endroit connu de l'univers. Les vaches sont des animaux qui existent sur Terre et elles ont évolué pour vivre dans les conditions de notre planète. Mars, quant à elle, est une planète différente de la Terre, avec des conditions atmosphériques et géologiques très différentes. Aucune preuve scientifique n'a jamais été trouvée de la présence de vaches ou d'autres formes de vie complexes sur Mars. Voilà. Bon. Pas complètement faux, quoi. C'est plutôt...
On va essayer ensuite de lui dire « J'ai vu une vache verte, de quelle couleur est son lait ?» Il faut être un peu plus...
Ah d'accord, très bien. Alors on va tester ça pendant la chanson et on vous apporte la réponse après les Beatles que voici sur RTS, la première. Ils chantent « Come Together ».
CQFD, tous les jours de la semaine, entre 10h et 11h.
Shh.
of Me, Come Together. Donc, c'est un choix de Jean-Baptiste Roumens, les Beatles, à l'instant, dans CQFD. Nous parlons aujourd'hui, nous faisons le point ce matin sur l'évolution de l'intelligence artificielle, l'IA, hein, depuis 10 ans, en compagnie de François Fleuret, professeur au département d'informatique de l'Université de Genève, et Lê Nguyen Wang, cofondateur et PDG de Calicarpa. C'est une start-up en cybersécurité du machine learning. On a évoqué l'utilisation de l'IA pour le repérage de tumeurs cancéreuses. On a évoqué l'intelligence artificielle de ChatGPT qui nous disait qu'il n'y avait pas a priori de vaches vertes sur Mars tout à l'heure. Et vous nous disiez, on va le retester encore un petit peu, François Fleuret, en disant quelle est la couleur du lait d'une vache verte. Alors voilà ce qu'il répond. Le lait d'une vache, quelle que soit sa couleur, est généralement blanc ou légèrement jaunâtre en raison de la présence de matière grasse. Les vaches elles-mêmes ne sont pas vertes. Elles ont une fourrure principalement brune, noire ou blanche selon la race, bien que certaines puissent avoir des taches de couleurs différentes. Dans tous les cas, même si une vache était verte, cela n'affecterait pas la couleur de son lait qui serait toujours blanc ou jaunâtre. Voilà, c'est ce qu'il nous dit.
Alors moi, je trouve qu'il s'avance un petit peu.
Oui, moi je trouve aussi, hein, me semble-t-il. On a évoqué donc tout cela. On l'utilise encore pour bien d'autres tâches, hein, Stéphane, cette intelligence artificielle.
Voilà, et on voit, oui, justement, les tâches. Ah, on a évoqué ChatGPT, on a évoqué la médecine, à part ça.
Ah ben, à peu près tout,
aujourd'hui.
Tout ce qui touche à des signaux complexes acquis dans des situations où on ne contrôle pas, c'est-à-dire vidéo, images, son. Reconnaissance de la parole, reconstruction de scènes 3D. Enfin, dès que vous n'avez pas un contrôle précis dans une usine ou un site où vraiment vous pouvez contrôler l'éclairage, le placement et autres, il vous faut l'algorithmique traditionnel ne suffit pas.
Mmh. On reproche souvent aux intelligences artificielles l'opacité des algorithmes. Et en préparant cette émission, François Fleuret, vous me disiez que même les spécialistes ne savaient pas trop toujours comment ça fonctionne exactement.
Alors, plus que pas trop, c'est que, par essence, ces systèmes développent eux-mêmes leurs représentations et leurs règles de déduction, et ce qui fait que ça marche, c'est que, par leur structure, ils peuvent apprendre des choses très compliquées. Donc, c'est presque une propriété plus qu'un bug. Ils sont capables d'apprendre des choses extrêmement complexes, de combiner énormément d'indices en grand nombre et subtils, et on ne comprend pas à la fin comment ça fonctionne. Mmh. Et c'est un gros problème.
Lê Nguyen Wang, vous avez évoqué tout à l'heure les biais possibles. Donc, vous évoquez par exemple les Ouïghours, qu'on va peut-être pas retrouver, notamment dans une intelligence artificielle chinoise, on va dire. Il y a les questions de racisme, de sexisme aussi, tout ça c'est possible. Ça dépend un petit peu comment on a écrit cet algorithme.
Oui, tout à fait. En gros, comme j'ai dit, la première phase, souvent, on va entraîner ces algorithmes à répliquer le langage. Et en fait, il y a plein de problèmes dans pas mal de langages qu'on trouve sur Internet, mais même dans le langage même, peut avoir des biais inscrits à l'intérieur. Donc, il y a tout le débat, par exemple, autour de l'écriture inclusive. Et donc, il y a vraiment une question à savoir aussi sur ces algorithmes, maintenant qui traitent le langage, comment est-ce qu'ils vont traiter ces difficultés. Et puis, si on va au-delà de ChatGPT, aujourd'hui, les intelligences artificielles sont vraiment partout dans notre société, et en particulier sur nos téléphones. Et donc, on n'a pas juste les algorithmes de langage, mais aussi les algorithmes de recommandation, les algorithmes de ciblage publicitaire, les algorithmes de modération, et tous ces biais se posent aussi pour ces algorithmes.
Puis un mot peut-être quand même sur ce qu'on appelle les deepfakes, l'hypertrucage. Il sera de plus en plus difficile de savoir si on a affaire à du réel ou à du truqué.
Oui. Ah. Je pense. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous avez suivi un peu Stable Diffusion, Midjourney et tous ces trucs-là.
Non, pas du tout.
C'est des algorithmes de production d'images, ouais. Et ce qu'on appelle conditionnés sur du texte. Donc, vous écrivez, Donald oui. Trump avec je sais pas qui.
Macron poubelle.
Et ça vous génère une image hyper réaliste de. Alors là,
Emmanuel Macron oui. au milieu de poubelle.
Au milieu de poubelle, oui. Okay. Oui. C'était ce week-end.
Donc on a juste à formuler, dessine-moi
une.
Oui, dessine-moi.
Non, exactement.
Il y a eu des histoires de Trump arrêté par la police avec des images ouais. qui ont été fabriquées par Midjourney et qui étaient vachement, enfin, très crédibles et il y en a beaucoup qui sont tombés dans le panneau. Ouais.
Et par essence, ces systèmes ne peuvent être que de plus en plus performants. À nouveau, ils imitent les statistiques. Donc, tout d'un coup, on s'aperçoit que les statistiques, c'est important. Les gens à l'école se disent, je ne vais pas travailler mes statistiques, mais c'est très, très important. Il fallait bien suivre à l'école. Ça devient le centre de tout.
Donc, est-ce qu'on a moyen justement de repérer ces hyper-trucages ?
Ben non, il y a encore des petits indices, mais plus ça avance, les indices, les gros indices qui les permettaient de faire la différence il y a 5 ans sont devenus des petits indices il y a 3 ans, sont devenus des tout petits indices maintenant. Et là, par exemple, il y a une photo du pape avec une doudoune...
blanche.
Ouais, très très branchée, et les gens disent « Ah, on voit bien que c'est un faux », et ils pointent un micro-détail de l'erreur, de l'ombre, des lunettes sur sa joue et de la forme de l'oreille. Alors soit, effectivement, à posteriori, on se dit « Ah oui, c'est vrai que c'est bizarre, mais ça va pas durer, je pense.
Len Guin Wang, pour vous, quelles sont les applications d'intelligence artificielle les plus dangereuses ?
Alors, les plus dangereuses, il y en a beaucoup. Mais je pense qu'on peut voir que le gros business aujourd'hui, si on réfléchit vraiment aux entreprises qui sont à la pointe d'intelligence artificielle, en particulier Google et Facebook, leur modèle d'affaires tourne beaucoup autour du marketing et de la publicité ciblée. Et je pense que c'est une énorme application de ces outils. Un autre domaine qui est encore plus dangereux, c'est tout ce qui a à voir avec le cybercrime. C'est-à-dire qu'il y a une grosse partie du business aujourd'hui en ligne. Certains estiment ça à 6 000 milliards de dollars, donc plus que Google, plus Apple, plus Facebook, plus Amazon, plus Microsoft. Et c'est un business qui va typiquement s'appuyer sur des arnaques en ligne, des industries de la désinformation, des cyberattaques également. On a vu aussi que ces algorithmes sont capables de produire des cyberattaques. Voilà, je pense que toutes ces préoccupations doivent être à l'esprit, surtout que ces algorithmes se développent à un rythme effréné et les prochaines générations... sont pour demain, quoi.
Un mot peut-être sur les limites de l'intelligence artificielle. Il y a quelques années, on se rappelle Stephen Hawking qui prédisait quasiment la fin de l'humanité, mais sans aller jusque-là. Est-ce qu'un jour, il n'y aura plus de différence entre ces gros modèles et la cognition humaine? Homo sapiens deviendra-t-il obsolète?
Donc, c'est tellement difficile. Cette question est tellement compliquée. Donc je ne sais pas, mais en tout cas, il y a beaucoup de tâches qu'on pensait loin de pouvoir être résolues avec des systèmes d'IA. Et à chaque fois qu'on définit une tâche, 2 ans après, elle tombe. Donc là, le langage, le chain of thought, donc un peu ces suites de pensée, cette réflexion, cette interaction avec les humains, on pensait que là, ça tiendrait 20 ans. Et là, ça devient compliqué. C'est-à-dire que tout à l'heure, il était fait allusion au test de Turing. Ces systèmes passeraient le test de Turing brillamment. Ce serait extrêmement difficile pour quelqu'un à qui on n'a pas dit « fais très attention, c'est peut-être une IA, faut checker ». Interagir avec ChatGPT, c'est difficile de croire que derrière, c'est qu'une boîte qui fait des calculs.
Alors oui, ces calculs, c'est, j'allais vous dire, cette puissance de calcul nécessaire qui est énorme, qui va devenir de plus en plus grande, on l'imagine. La quantité d'énergie utilisée aussi, est-ce que ça pourrait être une limitation, dans le fond, au développement de l'intelligence artificielle?
Ça aussi, à nouveau, là, comme je dis, je suis un peu loin de mon camp de base, parce qu'il y a tellement de paramètres qui entrent en ligne de compte. Donc l'énergie que consomment ces choses, ces systèmes, est très grosse en apprentissage, ce qu'on appelle en inférence. C'est-à-dire quand une fois qu'il est entraîné, on l'utilise, c'est pas tant, c'est beaucoup, mais c'est pas tant. Et il faut voir ce que ça remplace. C'est un peu comme de dire que l'email consomme de l'énergie, mais l'email consomme moins d'énergie qu'une lettre papier, donc... c'est très compliqué. Est-ce que le gain de productivité grâce à ces systèmes, à la fin, se factorise avec une plus ou moins d'énergie? Là, c'est compliqué.
On aura fait le point, en tout cas, grâce à vous deux, hein, François Fleuret, professeur au département d'informatique de l'Université de Genève, et Len Guin Wang, cofondateur et PDG de Calicarpon. On aura fait le point donc sur cette intelligence artificielle qui évolue. Hein, voilà, nous, CQFD, ça fait 10 ans qu'on existe et on voit à quel point les choses ont évolué à une vitesse folle, et on sent bien qu'il y a une espèce d'accélération qu'on suit avec passion. Merci, en tout cas, à tous les deux de nous avoir rejoints en direct ce matin dans les studios de La Première, invité par Stéphane Delétro. On va aller en mer tout à l'heure et on va aussi un petit peu rester sur la terre ferme grâce à deux laboratoires de pointe qui vont observer les côtes européennes pendant 18 mois, Ariane Hasler.
Oui, 18 mois où ils vont récolter des milliers d'échantillons pour mieux comprendre cet écosystème si particulier, analyser notre impact sur lui. Un écosystème qu'on connaît en fait assez mal et qui pourrait nous en apprendre beaucoup sur le vivant et sur notre planète.
A tout de suite, Ariane. 10h45, 11h moins quart sur RTS, La Première. Jamais